Chapitre 7. Au peuple qui souffre pour la justice. Pour le livre du roi Albert. 2 novembre, jour des morts, 1914. La Belgique vient d'écrire un chant d'épopée, dont les échos retentiront dans les siècles. Comme les 300 Spartiates, la petite armée belge tenant tête 3 mois aux colosses germaniques, Lehmann, Léonidas, les Thermopyles de Liège, Louvain comme Troie brûlée, la geste du roi Albert entouré de ses preux, quelle ampleur légendaire ont déjà ces figures que l'histoire n'a pas encore fini de dessiner. L'héroïsme de ce peuple qui s'est, sans une plainte, sacrifié tout entier pour sauver son honneur, a éclaté comme un coup de tonnerre en un temps où l'esprit de l'Allemagne victorieuse faisait régner sur le monde la conception d'un réalisme politique lourdement appuyé sur la force et l'intérêt. Ce fut une libération de l'idéalisme opprimé de l'Occident. Et que le signal ait été donné par cette petite nation a semblé un miracle. Les hommes appellent miracle l'apparition subite d'une réalité cachée. C'est le brusque danger qui fait le mieux connaître les individus et les peuples. Combien de découvertes cette guerre nous a fait faire parmi ceux qui nous entourent, qui nous touche de plus près. Que de cœurs de héros, et que de bêtes féroces. L'âme profonde se révèle, ce n'est pas une âme nouvelle. En cette heure redoutable, la Belgique a vu surgir le génie caché de sa race. La valeur qu'elle a montrée dans les 3 derniers mois frappe d'admiration. Elle ne surprend pas celui qui, dans l'histoire, vit couler à travers les siècles la sève de ce peuple. Petit par le nombre et l'espace, l'un des plus grands de l'Europe par sa vitalité de fleuve débordant. Les Belges d'aujourd'hui sont fils des Flamands de Courtrai. Les hommes de cette terre n'ont jamais craint d'affronter leurs puissants voisins, rois de France ou d'Espagne. Tour à tour, héros et victimes, Artevelde et Egmont. Ce sol qu'a détrempé le sang de millions de combattants est le plus fécond d'Europe, en moisson de l'esprit. C'est de lui qu'est sorti l'art de la peinture moderne, que l'école des Van Eyck rayonna sur le monde au temps de la Renaissance. C'est de lui qu'est sorti l'art de la musique moderne, de cette polyphonie qui ruissela sur la France, l'Allemagne et l'Italie pendant près de 2 siècles. C'est de lui qu'est sorti la superbe floraison poétique d'aujourd'hui et les 2 écrivains qui représentent à présent avec le plus d'éclat les lettres françaises dans l'univers, Maeterlinck et Verhaeren, sont belges. C'est le peuple qui a le plus souffert et le plus vaillamment, le plus gaiement supporté, le peuple martyr de Philippe II et du Kaiser Wilhelm. Et c'est le peuple de Rubens, le peuple de Kermès et de Till Eulenspiegel. Qui connaît l'étonnante épopée, reprise par Charles de Coster, les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses d'Eulenspiegel et de l'âme Gaudiac, ces 2 gaillards de Flandre, dignes de marcher de pair avec l'immortel Don Quichotte et son Sancho Panza, qui a vu à l'œuvre cet indomptable esprit, rude et facétieux, révolté de nature, frondant toutes les puissances, passant par le cerceau de toutes les épreuves, et en sortant toujours guilleret et riant, celui-là connaît aussi les destinées du peuple qui enfanta Eulenspiegel, et il regarde sans crainte, même aux heures les plus sombres, l'aurore prochaine de richesse et de liesse. La Belgique peut être envahie. Le peuple belge ne sera jamais ni conquis ni soumis. Le peuple belge ne peut mourir. À la fin du récit de Till Eulenspiegel, alors qu'on le croit mort et qu'on va l'enterrer, il se réveille. « Est-ce qu'on enterre, dit Till Eulenspiegel, l'esprit, né le cœur de la mer Flandre ?» Dormir, soit, mais mourir, non. Viens, Neil. » Et il partit en chantant sa 6e chanson, et nul ne sait où il chanta sa dernière. Chapitre 8. Lettre à ceux qui m'accusent. À Genève, où je travaille à l'œuvre internationale des prisonniers de guerre, m'est parvenu tardivement l'écho des attaques suscitées contre moi dans certains journaux par les articles que j'ai publiés au journal de Genève, ou plutôt par 2 ou 3 passages artificieusement choisis dans ces articles, car ceux-ci ne sont connus de presque personne en France. Ma meilleure réponse sera de les réunir en brochure et de les publier à Paris. Je n'y ajouterai pas un mot d'explication, car il n'est pas une ligne que je n'estime avoir eu le droit et le devoir d'écrire. Et je pense que, d'ailleurs, il y a mieux à faire en ce moment qu'à se défendre soi-même. Il y a à défendre les autres, les milliers de victimes que fait chez nous la guerre. Le temps que l'on consacre à répondre à un adversaire est comme un vol que l'on fait à ces malheureux, à ces prisonniers, à ces familles, dont nous tâchons à Genève de rapprocher les mains qui se cherchent à travers l'espace. Mais puisqu'on ne s'est pas contenté de m'attaquer personnellement, puisqu'on a attaqué des idées, une cause que je crois celle de la vraie France, puisque mes amis attendent de moi que je défende ces pensées qui sont aussi les leurs, je profite de l'hospitalité qui m'est offerte pour répondre nettement, franchement, en bon François et nivernois. J'ai publié 4 articles, une lettre à Gerhard Hauptmann au lendemain de la dévastation de Louvain, au-dessus de la mêlée, de 2 mots le moindre, et Inter Arma Caritas. Dans ces 4 articles, j'ai dit que de tous les impérialismes qui sont le fléau du monde, l'impérialisme militariste prussien est le pire, qu'il est l'ennemi de la liberté européenne, l'ennemi de la civilisation d'Occident, l'ennemi de l'Allemagne elle-même, et qu'il faut le détruire. Sur ce point, j'imagine que nous sommes tous d'accord. Que me reproche-t-on ? Sans entrer dans la discussion de certains points de détail, comme l'appel fait par les alliés aux forces de l'Asie et de l'Afrique, que j'ai désapprouvé, et que je désapprouve encore, parce que j'y vois un grave danger prochain pour l'Europe, pour les alliés eux-mêmes, et que ce danger commence à se réaliser déjà, par les menaces de soulèvement du monde islamique. On me reproche essentiellement 2 choses. Premièrement, mon refus d'englober dans la même réprobation le peuple allemand et ses chefs, militaires ou intellectuels. Deuxièmement, l'estime et l'amitié que je conserve pour des hommes de cette nation avec qui nous sommes en guerre. Je répondrai d'abord sans embâge à ce second reproche. Oui, j'ai des amis allemands, comme j'ai des amis français, italiens, anglais, de toute race. C'est ma richesse, j'en suis fier et je la garde. Quand on a eu le bonheur de rencontrer dans le monde des âmes loyales avec qui l'on partage ses plus intimes pensées, avec qui l'on a noué des liens fraternels, ces liens sont sacrés, et ce n'est pas à l'heure de l'épreuve qu'on ira les briser. Quel lâche serait-il donc, celui qui cesserait peureusement de les avouer, pour obéir aux sommations insolentes d'une opinion publique qui n'a aucun droit sur notre cœur? L'amour de la patrie exige-t-il cette dureté du sentiment, que l'on décore, je le sais, du nom de cornélienne? Mais Corneille lui-même a fourni la réponse. Albe vous a nommé, je ne vous connais plus. Je vous connais encore, et c'est ce qui me tue. Ce que de telles amitiés, en des moments pareils, ont de douloureux parfois jusqu'au tragique, certaines lettres le montreront plus tard. Du moins, nous leur devons d'avoir pu, grâce à elles, nous défendre de la haine, qui est plus meurtrière encore que la guerre. Car elle est une infection produite par ses blessures, et elle fait autant de mal à celui qu'elle possède qu'à celui qu'elle poursuit. Ce poison, je le vois avec inquiétude se propager à l'heure actuelle. Les cruautés et les ravages commis par des armées allemandes ont fait naître chez les populations victimes un désir de représailles, qui se conçoit, mais que la presse n'a pas pour tâche d'exaspérer, car ce désir risquerait de conduire à de dangereuses injustices, dangereuse non seulement pour le vaincu, mais surtout pour le vainqueur. La France a, dans cette guerre, la chance d'avoir le plus beau rôle, et la chance plus rare encore que l'univers l'ait reconnu. Un Allemand m'écrivait il y a quelques semaines, « La France a obtenu dans cette guerre un prodigieux triomphe moral. Les sympathies du monde entier se sont ruées vers elle. Et, le plus extraordinaire, l'Allemagne elle-même a un secret penchant pour l'adversaire. Ce triomphe moral, nous devons tous vouloir qu'elle le garde jusqu'au bout, qu'elle reste jusqu'au bout, juste, lucide et humaine. Je n'ai jamais pu distinguer la cause de la France de celle de l'humanité. C'est parce que je suis français que je laisse à nos ennemis prussiens la devise « Oderint dum metuant. Je veux que la France soit aimée. Je veux qu'elle soit victorieuse, non seulement par la force, non seulement par le droit, ce serait encore trop dur, mais par la supériorité de son grand cœur généreux. Je veux qu'elle soit assez forte pour combattre sans haine, et pour voir, même dans ceux qu'elle est forcée d'abattre, des frères qui se trompent et dont il faut avoir pitié, après les avoir mis dans l'incapacité de nuire. Nos soldats le savent bien. Je ne compte pas les lettres qui nous viennent du front et nous citent des traits de fraternité compatissante entre les combattants. Mais les civils qui se trouvent à l'écart du combat, qui n'agissent point, qui parlent, qui écrivent et s'entretiennent ainsi dans une agitation factice et forcenée sans pouvoir la dépenser, ceux-là sont livrés au souffle de violence fiévreux. Et là est le danger. Car ils sont l'opinion, la seule qui puisse s'exprimer. Tout autre est interdite. C'est pour eux que j'écris, non pour ceux qui se battent. Ils n'ont pas besoin de nous. Et lorsque j'entends des publicistes tâcher de tendre toutes les énergies de la nation par tous les excitants vers cet objet unique, l'écrasement total de la nation ennemie, j'estime qu'il est de mon devoir de m'élever contre ce que je crois à la fois une erreur morale et une erreur politique. On fait la guerre à un État, on ne la fait pas à un peuple. Il serait monstrueux de faire porter à 65 millions d'hommes la responsabilité des actes de quelques milliers, de quelques centaines peut-être. De cette Suisse française, si passionnée pour la France, si frémissante de ses sympathies pour elle et du devoir de les refréner, j'ai pu, depuis 3 mois, par la lecture des lettres, des brochures d'Allemagne, scruter attentivement la conscience de la nation allemande. Et j'ai pu me rendre compte ainsi de bien des faits qui échappent à la plupart des Français. Le premier, le plus frappant, le plus inattendu, c'est qu'il n'y a dans l'ensemble de l'Allemagne aucune haine réelle contre la France. Toute la haine est tournée contre l'Angleterre. Le pathétique même de la situation est que jamais l'esprit français n'avait exercé sur l'Allemagne une telle attraction que depuis 2 ou 3 ans. On commençait à découvrir la vraie France, la France du travail et de la foi. Les nouvelles générations allemandes, les jeunes classes que l'on vient de mener à l'abattoir d'Ypres et de Dixmude, comptaient les esprits les plus purs, les plus idéalistes, les plus épris du rêve de fraternité universelle. Dirais-je que pour beaucoup d'entre eux, la guerre a été un déchirement, une horreur, un échec, un renoncement à tout idéal, une abdication de l'esprit, comme l'écrivait l'un d'eux à la veille de mourir. Dirais-je que la mort de Peggy a été un deuil pour beaucoup de jeunes Allemands. On ne le croira pas. Il le faudra bien pourtant, le jour où je publierai les documents amassés. Ce qu'on sait un peu mieux en France, c'est comment cette nation allemande, enveloppée dans la nasse des mensonges de son gouvernement, s'abandonnant à lui avec un loyalisme aveugle et entêté, en est arrivée à la croyance profonde qu'elle était attaquée, traquée par l'envie du monde, et qu'il lui fallait se défendre à tout prix ou mourir. Il est dans les traditions chevaleresques de la France de rendre hommage au courage d'un adversaire. On doit à celui-ci de reconnaître qu'à défaut d'autres vertus, l'esprit de sacrifice est chez lui presque illimité. Ce serait une grave faute de le pousser à bout. Au lieu d'acculer à la grandeur d'une défense désespérée ce peuple aveuglé, tâchez de lui ouvrir les yeux. Ce n'est pas impossible. Un patriote alsacien, qu'on ne peut taxer d'indulgence pour l'Allemagne, le docteur Bücher de Strasbourg, me disait naguère que si l'Allemand est plein de préjugés orgueilleux, soigneusement cultivés par ses éducateurs, du moins on a toujours cette ressource avec lui de pouvoir discuter et que son esprit docile est accessible aux arguments. Je vous en donnerai un exemple, l'évolution secrète que je vois se produire dans la pensée de certains Allemands. Nombre de lettres allemandes que j'ai reçues depuis 1 mois commencent à émettre des doutes angoissés sur la légitimité des actes accomplis par l'Allemagne en Belgique. J'ai vu ces inquiétudes se former peu à peu dans des consciences qui d'abord reposaient en la certitude de leurs droits. La vérité lentement se fait jour. Qu'arrivera-t-il si la lumière gagne et s'étend? Portez-la dans vos mains. Qu'elle soit notre meilleure arme. Comme les soldats de la Révolution dont l'âme revit dans nos troupes, combattons non pas contre, mais pour nos ennemis. et, délivrant le monde, délivrons-les aussi. La France ne brise pas de chaînes pour en imposer d'autres. Vous pensez à la victoire, je pense à la paix qui suivra. Car les plus belliqueux d'entre vous ont beau dire, et comme dans tel article nous offrir la régalante promesse d'une guerre perpétuelle, d'une guerre qui dure après la guerre indéfiniment, elle finira pourtant faute de combattants. Il faudrait bien un jour que vous vous donniez la main, vous et vos voisins d'outre-Rhin, ne fût-ce que pour toper dedans pour vos affaires. Il faudra bien que vous repreniez ensemble des relations supportables et humaines. Arrangez-vous donc de façon à ne pas les rendre impossibles. Ne brisez pas tous les ponts, puisqu'il nous faudra toujours traverser la rivière. Ne détruisez pas l'avenir. Une belle blessure bien franche, bien propre, se guérit. Mais ne l'envenimez pas. Défendons-nous de la haine. S'il faut dans la paix préparer la guerre, comme dit la sagesse des nations, il faut aussi dans la guerre préparer la paix. C'est une tâche qui ne me semble pas indigne de ceux d'entre nous qui se trouvent en dehors du combat et qui, par la vie de l'esprit, ont des liens plus étendus avec l'univers. Cette petite église laïque, qui, mieux que l'autre aujourd'hui, garde sa foi en l'unité de la pensée humaine et croit que tous les hommes sont les fils du même Père. En tout cas, si une telle foi nous vaut d'être injuriés, ces injures sont un honneur que nous revendiquons devant l'avenir.